Au menu du jour, pied d'agneau cuit à l'étouffée servi en sauce, accompagné de sa purée d'orge et de céréales parfumées à la pomme acide. Ça vous tente ? Figurez-vous que c'est sans doute la plus vieille recette connue de la vallée de la Drôme. Ce repas, légèrement carbonisé et un peu passé, a été retrouvé par des archéologues dans les vestiges d'une maison vieille de 3000 ans, près de Saint-Ferréol dans le Diois. Ce menu est particulièrement intéressant parce qu'il confirme deux choses. D'abord, l'amour des plats en sauce est partagé par toutes les générations depuis l'aube des temps, et c'est vraiment le plus important. Ensuite, le changement alimentaire amorcé par les hommes au néolithique est déjà bien ancré durant l'âge du bronze. Rembobinons pour comprendre. L'alimentation est intimement liée au mode de vie, et le nôtre n'est pas si vieux que ça. Il a à peine 8000 ans. À l'échelle de l'histoire de l'espèce humaine, c'est tout récent. Pour résumer à gros traits, les hommes étaient nomades durant la majorité de la préhistoire. Ils se nourrissaient en pratiquant la chasse et la cueillette, et se déplaçaient donc selon les saisons et la disponibilité des ressources. Puis, environ 6000 ans avant Jésus-Christ, boum! Le néolithique démarre et tout se met à changer. Les humains commencent à choisir des territoires où s'installer pour de bon. Ils se sédentarisent progressivement. Vous n'imaginez pas à quel point ce phénomène, la sédentarisation, est majeur. Puisqu'ils restent au même endroit, les hommes ne peuvent plus compter sur la nature pour les nourrir en toute saison. Ils commencent donc à adapter la nature à leurs besoins et se mettre à produire de quoi se sustenter. C'est l'invention de l'agriculture et de l'élevage. Et c'est un bouleversement sans précédent et sans retour, à la fois pour notre espèce et pour l'écosystème dans lequel nous vivons. Le mode d'alimentation, forcément, évolue. La nourriture devient plus abondante et plus riche, notamment en graisse animale. La conséquence directe de ce changement de régime, c'est l'explosion démographique, qui se poursuit d'ailleurs aujourd'hui. Les femmes, mieux nourries, ont besoin de moins de temps entre deux grossesses et la fertilité bondit d'autant. Si vous craignez la surpopulation, blâmez le néolithique, c'est entièrement de sa faute. Toutefois, la transformation de l'alimentation n'a pas forcément été évidente. Si la nourriture est effectivement plus riche, elle peut manquer de variété selon les territoires. Si aucune activité de chasse et de cueillette n'est maintenue dans une communauté, les carences et la malnutrition ne sont pas rares, plusieurs sépultures le révèlent. Un autre désavantage tient à la multiplication des maladies. Forcément, le développement de l'élevage entraîne une proximité directe, immédiate avec les animaux, dont certains maux finissent par se transmettre aux hommes. Des millénaires plus tard, lorsque les hommes commencent à travailler les métaux, le processus de sédentarisation y est bien implanté, y compris dans le Diois. Les humains se regroupent dans des proto-villages, aux maisons faites de bois et de terre crue, à proximité de leur culture et de leurs animaux. En parlant de bestioles, vous n'allez jamais deviner quel était l'élevage le plus important dans le Diois à l'époque. Le suspense est insoutenable. C'est évidemment l'élevage ovin qui remporte le gros lot, avec les moutons en tête. Qui l'eût cru ? Des porcs et des bœufs sont aussi élevés, mais en plus faible proportion. Quant aux cultures, elles sont essentiellement céréalières et légumineuses. L'un de ces minuscules villages de l'âge du bronze fut retrouvé sur le site des Gandus, près de Saint-Ferréol 30 pas. Construit entre une rivière et une falaise, il s'étalait sur des terrassements artificiellement aménagés. Les restes de 3 maisons furent retrouvés là. Coup de bol ? Alors, coup de bol pour les archéologues, hein, pas pour les habitants. Elles avaient été détruites dans un incendie. En fuyant précipitamment leur domicile en feu, les occupants ont laissé la majorité de leurs affaires derrière eux, que la chaleur a ensuite suffisamment cuit pour les préserver dans le temps. Un certain nombre de poteries, d'objets et d'ustensiles quotidiens purent ainsi être exhumés, dont une partie a rejoint les collections du musée de Die. Surtout, les vestiges ont permis de reconstituer quasi entièrement un coin de cuisine. Le repas évoqué plus tôt fut découvert là, ses cendres amoncelées et collées au fond des plats. Répartie dans plusieurs récipients de terre cuite, la recette d'agneau et de bouillie de céréales rehaussées à la pomme acide devait être en train de cuire lorsque l'incendie s'est déclaré. Si la pomme acide mentionnée est probablement sauvage, fruit de la cueillette, les produits utilisés pour cuisiner sont principalement issus de l'agriculture céréalière et de l'élevage local, ce qui montre bien l'ancrage d'une alimentation typiquement sédentaire. Nous pouvons d'ailleurs constater ensemble que cette recette était plutôt élaborée et demandait un temps de préparation conséquent. Cette recette, finalement, ressemble à beaucoup des nôtres aujourd'hui. Mais contrairement à ce que nous pourrions croire, il n'y a pas eu de cauchemar en cuisine. Ce n'est vraisemblablement pas le plat qui a mis le feu au palais des habitants du Gandu. Vous avez compris ? Palais, palais...
Quand vous faites ça, ça me fout une angoisse.
L'incendie ne semble avoir aucun rapport avec le plat à mitonner. À moins qu'en dessert, ils aient prévu des crêpes flambées.
Non, c'est, j'en ai marre.
Ces montagnes d'histoire vous ont été présentées par le musée de Die.